Toutefois, les craintes restent entières quant au futur de cette ligne. 55 millions d'investissements tout de même. Oui, les CFF, de l'aveu même de sa présidente du conseil d'administration, envisagent de privilégier à terme les grands tronçons et de délaisser les petits, surtout, on l'imagine, quand les trains y sont presque vides. Aussi étonnant que cela puisse paraître, depuis les fenêtres du petit train rouge entre Halle et Porrentruy, on peut faire des signes de la main aux utilisateurs du Mobiju qui circulent en parallèle à 200 mètres de là. Avec cette nouvelle cadence à la demi-heure et une offre sensiblement améliorée, le gouvernement va-t-il ici, enfin, privilégier le rail à la route? Je le remercie pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Effectivement, monsieur le député, vos observations sont tout à fait judicieuses. Pour mémoire, donc, en 2017, un contrat d'axe a été signé entre les chemins de fer du Jura, les communes le long de la ligne, ainsi que le canton et l'OFT, pour finalement investir massivement dans le renouvellement de cette infrastructure, assurer sa pérennité. Mais bien évidemment, cela n'était pas suffisant, puisque le taux de couverture, qui doit atteindre un seuil de 20% selon les normes fédérales, n'était pas atteint. Et donc la solution a été mise en place, c'est celle qu'on appelle un Y, pour avoir une liaison finalement de Léman, Porrentruy, Del, Porrentruy, Bonfol, et donc d'intégrer cette ligne Porrentruy-Bonfol dans cette ligne qui est beaucoup plus fréquentée, et ainsi donc d'avoir globalement un taux de couverture qui satisfait aux exigences fédérales. Par contre, vous faites aussi une observation où il y a une concurrence effectivement entre rail et route, entre Halle et Porrentruy. C'est un sujet que nous connaissons. Et sachez que mes services ont reçu le mandat de réexaminer comment concilier mieux bus et rail pour ne pas finalement pénaliser les uns ou les autres, mais plutôt promouvoir les transports publics de la manière la plus rationnelle possible.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Gauthier Corba est satisfait. Nous passons à la question numéro 2. Et pour ce faire, je passe la parole à madame la députée Yelitsa Obri-Janketic.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, chers et chères collègues, l'émission Mise au point, diffusée le 6 avril dernier, a présenté les résultats d'une enquête menée à l'échelle de la Suisse romande, mettant en évidence une hausse préoccupante des signalements dans plusieurs crèches. Les problèmes soulevés concernent notamment un manque de personnel, un turnover élevé, ainsi que des erreurs ou manquements dans la prise en charge des enfants. Dans ce contexte, le gouvernement peut-il nous informer si des situations similaires ont été constatées récemment dans notre canton et quelles actions sont mises en œuvre pour assurer la qualité et la sécurité de l'accueil au sein des structures de la petite enfance jurassienne? Je remercie par avance le gouvernement pour sa réponse.
Merci, madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à madame la ministre Nathalie Bartolo.
Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. J'ai également vu l'émission qui mérite toutefois d'être mise un peu en contexte et nuancée, puisque le canton du Jura ne compte par exemple aucune crèche privée exploitée par un groupe privé étranger sur son territoire. Le canton du Jura a également été sollicité dans le cadre de cette enquête de la RTS, mais n'a fort heureusement pas été cité. Quelques cas seulement ont pu être identifiés au cours de ces dernières années. On ne constate fort heureusement pas d'augmentation des signalements dans le Jura. Il est vrai que l'on ne dispose pas d'une politique de remontée d'informations systématique en la matière et cela sera corrigé d'ici à l'été avec la publication d'une nouvelle directive qui était déjà en travail avant l'émission, je peux vous rassurer, qui obligera les structures d'accueil à informer le service de l'action sociale dans certains cas particuliers qui pourraient se produire dans les institutions. En ce qui concerne les conditions d'accueil dans le canton, elles sont plutôt meilleures que dans les autres cantons, notamment en termes de qualification du personnel, quand bien même les tailles des groupes des enfants est identique au niveau roman. De nombreuses précautions sont mises en œuvre pour assurer une surveillance ad hoc, certaines dérivant bien sûr du droit fédéral. Toutes les structures doivent appliquer par exemple un concept de surveillance qui a été revu et renforcé sur les deux dernières années, avec notamment une grille d'évaluation permettant de vérifier le respect des normes par l'institution d'accueil. Une vérification régulière du casier judiciaire est aussi désormais réalisée par le canton. Pour les situations de prise en charge particulière pour les enfants avec des besoins spécifiques, des moyens financiers sont également mis en œuvre par le canton pour renforcer l'encadrement. De manière générale, il nous semble donc que les moyens à disposition des structures d'accueil sont suffisants pour permettre un accueil de qualité, tant en ce qui concerne le niveau de qualification du personnel que celui des infrastructures. Chaque situation délicate, difficile, est évidemment une situation de trop et le risque zéro n'existe pas, ça on le sait tous. Mais il nous semble que les mesures mises en place dans le canton permettent de minimiser autant que possible les situations problématiques que celles évoquées dans le reportage et qu'elles assurent une certaine qualité et sécurité dans les institutions d'accueil de l'enfance de notre canton.
Merci Madame la Ministre. Quelle est votre appréciation Madame la députée ? Madame la députée Yelitsa Aubry-Yanketic est satisfaite. Nous passons à la question numéro 3 et pour ce faire je donne la parole à Madame la députée Pauline Godat.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, 2025 semble se profiler comme une année noire en matière de féminicide, avec un dernier drame dans le canton de Fribourg, il y a quelques jours seulement, qui fait douloureusement écho dans le canton. Une criminologue questionnée sur le sujet dans la presse locale évoque plusieurs pistes pour réduire les risques. Prévention de la violence auprès des jeunes garçons, contrôle électronique à distance qui sonne quand l'agresseur s'approche de son ex-femme ou de son ex-compagne, établissement d'un registre national des homicides, lieu d'hébergement sécurisé pour mettre femmes et enfants à l'abri. Quelles sont les mesures prises ou prévues dans le canton du Jura pour réduire les risques d'un nouveau drame ? Par avance, je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Effectivement, nous avons découvert avec effarement ces chiffres et nous sommes bien sûr en pensée avec les familles concernées. Le fait que nous n'ayons pas attendu, bien sûr, des chiffres aussi catastrophiques pour prendre des mesures au niveau du Jura, je peux vous donner plusieurs exemples. Bien évidemment, c'est notre loi sur les violences domestiques qui est vraiment prête maintenant, qui passera au gouvernement ce mois de juin, notamment avec l'instauration d'une unité de médecine des violences. Autre exemple, peut-être au niveau fédéral, ça a pris du temps, il fallait que tous les cantons s'entendent, mais là, il y a des bonnes nouvelles aussi. Puisqu'il y aura maintenant un numéro national, un numéro d'appel unique, et là on parle de début 26, alors un peu de retard prévu, mais tout le monde est maintenant d'accord. Autre exemple important, au gouvernement, il y a 2 semaines, un dossier est passé et a été soutenu et validé par le gouvernement, donc le renforcement du centre La Vie, cette fois sur territoire jurassien, avec 2 décisions importantes, donc il y aura un appartement sur sol jurassien dédié à l'accueil des victimes, et en plus une chambre louée à l'année dans une institution jurassienne. Donc ça, ce sont des nouveautés, ce sont des prises de décision très concrètes en faveur des victimes. Peut-être une dernière chose à signaler ici, je parle peut-être au niveau de la formation. Vous savez que ça fait de nombreuses années maintenant, depuis 2018, que nous avions mis en place, parce que dans votre question, et je l'avais lu dans la presse également, il a la mise en questionnement par rapport à l'attitude des jeunes garçons, c'est-à-dire de faire un travail très en amont. Et le canton du Jura, je me permets de le rappeler, avait été le premier canton suisse à rendre obligatoire le programme Sortir Ensemble et se respecter, qui s'appelle maintenant As de cœur, mais qui est exactement dans ce sens-là, donc mise en place pour les 11e années, pour garçons et filles, mais évidemment que ça s'adresse en priorité aux garçons, pour ce rapport entre les sexes et ces comportements masculins à cet âge-là, et surtout la prise en compte de violences possibles et un rapport entre les sexes qui devrait être plus serein. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Pauline Godat est satisfaite. Pour la question numéro 4, nous passons la parole à Madame la députée Sophie Guenot.
Monsieur le Président, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres, selon des informations relayées par les médias, la Confédération a procédé à l'élimination de vaccins contre le Covid-19 non utilisés, pour une valeur dépassant 1,3 milliard de francs. Ma question au gouvernement est la suivante. Quel est le nombre de doses de vaccins contre le Covid-19 non utilisées qui ont été éliminées dans notre canton ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Stéphane Teria.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, durant la pandémie de Covid-19, le stockage des vaccins pour le canton du Jura était assuré par la pharmacie interjurassienne sur le site de l'hôpital de Delémont, et ceci jusqu'au 30 juin 2024. Régulièrement, les cantons recevaient un ordre de la Confédération afin d'éliminer des doses selon les numéros des lots, les fabricants et les dates d'expiration des vaccins. En définitive, les dernières doses échues à fin mai 2024 ont été éliminées par la pharmacie interjurassienne, conformément aux indications de la Confédération, car les doses stockées par le canton du Jura avaient été livrées pour la dernière fois en février 2024. En effet, la base logistique de l'armée garantissait des livraisons jusqu'à cette dernière échéance. Pour toute l'année 2024, le nombre de flacons détruits selon les ordres reçus par la Confédération s'est élevé à 2060 flacons, représentant environ 10 000 doses de vaccins. Ces éliminations qui concernaient des produits arrivés à échéance en 2024 ont été réalisées par la pharmacie interjurassienne sur mandat du canton. Pour information, la majorité des cantons avaient opté pour un grossiste qui gérait les stocks et la livraison au canton. Le canton du Jura, lui, n'a pas opté pour cette possibilité jugée trop coûteuse. En conséquence, les livraisons ont été gérées directement par le biais de la base logistique de l'armée. Un stock minimal était disponible sur le site de Delémont et géré par la pharmacie interjurassienne. Cette pratique a permis au canton du Jura de réaliser des économies substantielles. Étant donné que la pharmacie interjurassienne était chargée de détruire tout le matériel non réutilisable, il n'est pas possible d'évaluer le coût spécifique de la destruction des doses de vaccins contre le Covid-19. Voilà, Madame les députées, les éléments que je peux amener par rapport à votre question.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Sophie Guenot est satisfaite. Pour la cinquième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Thomas Villaume.
Barmen en Ajoie allait être aménagé pour les exercices et la formation de nos chasseurs. À l'heure actuelle, ces derniers ne peuvent pas s'entraîner convenablement sur le territoire jurassien car les installations ne correspondent pas aux standards fédéraux dans le domaine de la chasse. D'où ma question. Est-ce que le gouvernement peut nous renseigner sur l'avancée de ce projet pour qu'à l'avenir, nos chasseurs soient des tireurs hors pair ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, monsieur le député. Alors, tout d'abord, nos chasseurs sont déjà des tireurs hors pair, mais bien évidemment qu'avec le stand d'exercice qu'ils auront, ils seront encore meilleurs. Ceci étant dit, effectivement, c'est un dossier qui dure depuis quelques années, qui suscite aussi de la patience au niveau des chasseurs. Et je dois vous dire que le dossier avance bien. Nous avons pu réaliser des avancées majeures et la demande de permis a été déposée la semaine passée, donc pour avoir un stand de tir d'exercice pour les chasseurs, un stand de tir d'entraînement sur la place d'Armes de Bure avec des cibles à 30 mètres, 50 mètres et 100 mètres, ce qui permettra effectivement de pouvoir finalement exercer le tir comme c'est requis, sans que les chasseurs aient à se déplacer hors du canton. Donc, ceci étant dit, le gouvernement tient à remercier les différents acteurs qui ont permis ce dépôt de permis et finalement d'avancer dans ce dossier qui n'est pas évident, que ce soit donc la Fédération cantonale des jurassiennes des chasseurs, la place d'armes avec l'armée, l'officier fédéral de tir, également bien sûr la commune concernée, Courchavon, et puis peut-être quelques entités encore que j'oublie. Si tout se déroule bien, le stand de tir sera opérationnel début 2026. Donc nous espérons que tout se déroule bien, que les plannings soient tenus, et ce sera un bel aboutissement et finalement une bonne solution intra-cantonale pour les chasseurs, pour qu'ils puissent s'exercer. Voilà donc ce que je peux vous donner comme information, monsieur le député.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Thomas Villaume est satisfait. Nous passons à la question orale numéro 6. Et pour ce faire, je donne la parole à monsieur le député Yves Gigon.
Merci, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues. Un parent a été stupéfait de recevoir une facture du CMP, Centre médico-psychologique enfants et adolescents, de plus de 7 000 francs en mars de cette année, pour des prestations prodiguées en 2022, 3 ans de retard. On lui a donné l'explication que le système de facturation a été changé en 2022, ce qui a occasionné ce retard. Je le répète, de 3 ans. Ma question est la suivante. Combien de personnes ont été victimes de ce dysfonctionnement et quel montant cela représente-t-il ? Car une entreprise privée ne pourrait pas se passer de liquidité pendant 3 ans alors qu'elle pourrait être encaissée tout de suite. Mais apparemment, le canton du Jura le peut.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Stéphane Teria.
Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, chers collègues, oui, monsieur le député, c'est exact qu'il y a eu un certain retard dans la facturation au sein du CMP. Le CMP a procédé à un changement de programme de facturation 2022, tel que vous l'avez mentionné, qui a malheureusement engendré un retard important dans l'émission de certaines factures. Actuellement, ce retard a été en grande partie résorbé, bien qu'il subsiste encore quelques retours des caisses maladies qui sont en cours de traitement, mais ce sera terminé tout prochainement. Bien entendu, ce retard engendré pris pour ces problèmes d'informatique, mais d'autres problèmes n'est pas acceptable. Je tiens néanmoins à saluer les efforts déployés ces derniers mois par l'équipe de direction du CMP et leur personnel administratif afin de rétablir la situation et mettre en place une organisation permettant d'éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir. Je n'ai pas les éléments chiffrés pour vous dire quel est le montant qui a été concerné, simplement vous dire que normalement tout devrait être à jour au niveau financier tout prochainement. Voilà, monsieur le député, la réponse que je peux vous apporter pour l'instant.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon est partiellement satisfait. Nous passons à la question orale numéro 7. Et pour ce faire, je passe la parole à monsieur le député François Monin.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, la déclaration d'origine du pain fait office d'une nouvelle législation fédérale depuis le 1er février 2024. Si les établissements boulangers avaient une année à disposition pour se mettre en conformité, il paraît essentiel pour la protection des denrées alimentaires suisses qu'elles soient respectées. La déclaration de l'origine du pain est donc obligatoire pour les acteurs du boulanger au commerce de détail, en passant par la restauration notamment. Pain suisse regroupe donc, et nouvellement sous une appellation, les produits de boulangerie produits chez nous. Ma question au gouvernement est donc la suivante. Dans une volonté de protection de nos savoir-faire, de nos territoires, mais surtout du travail exemplaire de nos artisans, ces réglementations sont-elles contrôlées et respectées sur nos territoires et avec quel respect ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Stéphane Teria.
Voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, chers collègues. L'ordonnance du défi concernant l'information sur les denrées alimentaires règle l'obligation de déclarer l'origine du pain de l'article 15, alinéa 3 bis. En bref, il y est stipulé que, pour que la Suisse puisse être indiquée comme pays de fabrication, il faut que le pâton soit confectionné. À l'inverse, le fait de cuire en Suisse des pâtons produits à l'extérieur de la Suisse n'est pas une opération suffisante pour que la Suisse puisse être indiquée comme pays de fabrication. Depuis le 1er février 2024, le service de la consommation et des affaires vétérinaires observe l'application de cette nouvelle disposition légale par les entreprises et les a rendues attentives à la fin de la période de transition au 31 janvier 2025. Les contrôles du SCAV ont été effectués dans les boulangeries, les restaurants, les food trucks, take-away, les commerces de détail, avec bien sûr les stations-service. Depuis le 1er février 2025, le SCAV émet des contestations et des mesures dans le cas de non-conformité. Sur les trois derniers mois, nous avons constaté qu'environ 33% des établissements présentent des non-conformités sur l'affichage ou l'étiquetage des articles de boulangerie, principalement par l'absence de l'incitation du pays de production, l'indication du pays de production. Il faut en outre remarquer que la marque pain suisse nécessite non seulement l'application de l'article 15 de l'ordonnance du DFI, mais aussi que 80% des ingrédients des produits proviennent de Suisse. Il s'agit donc d'un critère de qualité supplémentaire qui va au-delà de la base légale fédérale. En conclusion, pour mériter l'étiquette, il ne suffit pas de mettre la main à la pâte, encore faut-il que celle-ci soit bien de chez nous. Voici, monsieur le député, ma réponse.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député François Monin est satisfait. Nous passons à la question orale numéro 8. Et pour ce faire, je passe la parole à monsieur le député Joël Burkhalter.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, selon les scénarios de l'évolution de la population de la Suisse et des cantons 2025-2055, publiés par l'Office fédéral de la statistique, la population de la Suisse atteindra 10,5 millions d'habitants en 2055. Contre 9 millions fin 2024. Cette hausse sera principalement due à l'immigration, l'accroissement naturel devenant négatif dès 2035. La croissance démographique se concentrera autour des grands centres urbains, notamment Zurich et l'arc lémanique. Alors que plusieurs cantons enregistreront une augmentation marquée de leur population, s'élevant jusqu'à plus 32% pour Lucerne, le Jura avec Neuchâtel et Schaffhouse, figure parmi les rares cantons à ne connaître pratiquement aucune croissance. Pire, notre canton sera le seul à subir une baisse de sa population d'ici 2055, à hauteur de 0,1% selon le scénario de référence. Cette projection interpelle, elle pose des questions fondamentales sur l'attractivité de notre canton, sur sa politique de développement territorial, économique et social, et sur notre capacité à retenir et accueillir de nouveaux habitants dans notre contexte vieillissant de démographie. D'où ma question. Quelle analyse et ou quelle piste d'action le gouvernement tire-t-il de ces projections préoccupantes de l'OFS qui place le Jura comme seul canton à connaître une baisse démographique d'ici 2025? Par avance, je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député, avec une légère, un léger dépassement, mais ce n'est pas grave. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Ce que ne dit pas la statistique de l'OFS, c'est que, et en ce sens, c'est erroné, c'est que dans quelques mois, nous allons augmenter de 10% notre population, et ça, ils ne l'ont pas prise en considération. Au-delà de cette nuance, évidemment, c'est une question très intéressante, monsieur le député, bien sûr. Il nous faudrait bien plus des 2 minutes qui me sont allouées, que je vais tâcher de ne pas dépasser, pour avancer des scénarios, des hypothèses. Soyez assurés que notre chancellerie va se pencher sur ces perspectives. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que dans ce contexte, le canton du Jura doit augmenter son attractivité. Nous le savons, nous travaillons là-dessus depuis plusieurs années. Ça ne se fait pas effectivement d'un coup de baguette magique. Donc il faut beaucoup d'abnégation pour cela. Ça passe par la mise en valeur de notre cadre de vie. Une piste peut-être, le monde du travail qui évolue avec l'arrivée des nouvelles technologies, eh bien le canton du Jura doit jouer sa carte pour attirer des nouveaux emplois qui n'ont pas besoin d'être centralisés dans les grandes agglomérations. Il s'agit de poursuivre aussi nos efforts pour développer notre économie, la diversification, soutenir nos entreprises avec une claire volonté d'implanter non seulement des emplois mais aussi des nouveaux habitants. Et ceci dit, c'est vrai que les scénarios présentés par l'OFS posent une vraie question de répartition de la croissance aussi de la population dans les différentes régions de Suisse. Ces scénarios prévoient une croissance de près de 20% de la population dans les régions déjà presque saturées, j'ai envie de dire, en termes de logement et de mobilité. Donc dans ce cadre, on espère bien aussi, et on compte bien là-dessus, que le Jura fasse valoir ses atouts. Bref, vous le constatez, les autorités jurassiennes, ça soit bien sûr le gouvernement, mais vous aussi, au Parlement, bien sûr aussi les communes, ont d'importants défis à relever ces prochaines années pour contredire les projections statistiques. Et je le disais dans mon préambule, l'arrivée de Moutier va influer positivement sur cette question, également sur la statistique au niveau de la ville même. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Joël Burkhalter est satisfait. Nous passons à la question orale numéro 9. Et pour ce faire, je passe la parole à madame la députée Sonia Bury-Schmassmann.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, le moustique tigre, espèce invasive, s'est installé dans plusieurs régions de Suisse. Ce moustique, vecteur de maladies tropicales, est notamment présent dans les cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Est-ce que le canton dispose d'un réseau de surveillance de cette espèce, particulièrement dans les régions de basse altitude à proximité des voies de communication? Par avance, merci de votre réponse.
Merci, madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
Voilà, madame la députée. Alors, la réponse est oui. Depuis 2019, donc, nous participons au monitorage mis en place par le réseau suisse des moustiques. Et donc ceci en coordination avec cette entité. Cela existe, mesdames et messieurs. Le réseau suisse des moustiques existe.
C'était une bonne piqûre de rappel.
Donc voilà pour une piqûre de rappel. Ceci étant dit, restons sérieux. Pour vous rassurer, madame la députée, et dans le sens de votre question, 6 pièges sont mis en place dans les alentours de la gare de Léman, qui a été identifiée comme un endroit où l'apparition, si elle devait arriver, pourrait être probablement en premier dans notre canton. Les pièges sont relevés tous les 15 jours, donc très régulièrement, et dans le cas où un moustique tigre serait détecté, ou un œuf de moustique tigre, à ce moment-là, le réseau suisse des moustiques met à disposition des experts qui viendront épauler l'Office de l'environnement, qui donc prendra des mesures adéquates pour finalement contrecarrer cette arrivée.
On supprime la lettre.
Voilà, Madame la députée, pour ce qui est de la réponse à votre question.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Sonia Burich-Massmann est satisfaite. Nous passons à la question orale numéro 10. Et pour ce faire, je donne la parole à Monsieur le député Thomas Schafter.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, l'Office fédéral de la statistique a annoncé tout récemment que les procédures de faillite ouvertes à l'encontre de sociétés et de personnes avaient progressé de 10,3% en 2024 par rapport à 2023. Un chiffre d'ailleurs qui ne cesse de croître depuis 2021, les années post-Covid comme par hasard. Dans 5 cantons, le nombre de cas de faillite a toutefois été inférieur en 2024, notamment dans le Jura, où l'on a dénombré 15 cas de faillite en moins. Mais ce qui inquiète et interpelle davantage, c'est le dernier paragraphe du communiqué de l'OFS qui confirme que la vague des faillites devrait perdurer, car le nombre de poursuites atteint lui aussi des records. En 2024, les commandements de payer ont bondi de 8,5%, les saisies de 12,5%. Jamais auparavant, un nombre si élevé de poursuites avait été enregistré sur une année civile, précise le communiqué. Dans un contexte économique et social anxiogène, et compte tenu des charges de plus en plus importantes qui pèsent sur les indépendants, les sociétés et les familles jurassiennes, cette information a de quoi inquiéter. Le gouvernement peut-il nous renseigner sur l'évolution dans le Jura du nombre de poursuites, de commandements de payés et de saisies durant l'année 2024 et ses trois derniers mois de l'année, ou ses trois premiers mois de l'année, pardon, pour chacune des deux catégories, à savoir les entreprises et les personnes? Et comment l'État perçoit-il cette situation? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Monsieur le député. Là aussi, un léger dépassement, mais je crois que c'est les statistiques qui le veulent. Et pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre, à Madame la ministre Rosalie Beret-Sis.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. Oui, comme vous le relevez, les annonces de l'Office fédéral de la statistique de la semaine dernière ne sont pas réjouissantes et elles préoccupent le gouvernement. En termes de chiffres, je ne pourrais malheureusement pas être aussi précise que ce que soulève votre question orale. Je tâcherai toutefois de vous donner quelques tendances par rapport aux offices jurassiens. Donc, vous dire que les offices jurassiens ont enregistré 33 540 poursuites en 2024. C'est un chiffre que nous n'avions pas atteint depuis 2017. 2017 comptait 32 126 poursuites. Ces dernières années, comme ça a été relevé, le nombre de poursuites a fluctué, connaissant une baisse importante durant les années Covid. Il s'agit toutefois de relever que la courbe poursuit sa hausse. Donc effectivement, on est dans une courbe qui augmente dans le Jura comme partout en Suisse, démontrant effectivement qu'avec l'augmentation des primes de caisse maladie et du coût de la vie, les ménages jurassiens ont de plus en plus de peine à finir le mois. Concernant les faillites, vous l'avez également relevé, les faillites de société, le Jura, contrairement à la majorité des autres cantons suisses, n'a pas connu d'augmentation sur l'année 2024, mais je précise bien sur l'année 2024, parce qu'il faut dire que 2023 avait été marqué par un nombre de faillites particulièrement élevé, 49 faillites de sociétés ou d'indépendants inscrits au registre du commerce. Donc en 2023, l'année 2024 en dénombre 39. Donc à noter aussi que certaines faillites sont parfois prononcées alors que l'entité a cessé son activité depuis plusieurs années. Donc nous constatons également une courbe à la hausse dans ce domaine, même si notre canton n'a pas connu une augmentation aussi fulgurante que d'autres cantons suisses. Dans les éléments aussi marquants, vous relevez que concernant les successions répudiées, celles-ci sont également en hausse depuis plusieurs années et représentent plus de la moitié des dossiers traités par les offices des faillites. En 2024, il y a eu 107 dossiers de succession répudiés. Donc le gouvernement reste évidemment vigilant face à la situation. Il rappelle aux personnes privées l'existence de la plateforme Julien. Quant aux personnes morales ou indépendantes inscrites au registre du commerce, je me permets également de rappeler que la nouvelle base légale fédérale, dite base légale contre la faillite abusive, durcit encore le ton depuis le début de l'année. Donc nous ne pouvons dès lors qu'encourager les personnes rencontrant des difficultés à s'approcher suffisamment tôt des créanciers étatiques afin de trouver des arrangements de paiement en cas de difficulté, afin d'éviter que la situation ne se dégrade. Vous le comprenez, on est attentif à la situation, on cherche à trouver des moyens d'accompagner les personnes, mais il est vrai que ces indicateurs doivent nous alerter. Voilà pour les quelques éléments que je pouvais relever ce matin. Je vous remercie de votre attention.
Merci, Madame la Ministre. Là aussi, un léger dépassement, mais aussi la question le demandait. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Thomas Schafter est satisfait pour la 12e question orale. Je passe la parole à Monsieur le député Philippe Rottet.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, suite à un article de presse paru récemment, aucune maison familiale n'a été construite en ville de Delémont en 2023. Ce doit être un record. Il est vrai que la LAT, votée par le peuple voici quelques 10 ans, en est une des causes. Toutefois, et selon des sources fiables, il semblerait que le service des infrastructures est particulièrement regardant, alors qu'en d'autres endroits du pays, on est moins pointilleux. Le gouvernement est-il prêt à s'engager pour tenter de modifier quelque peu ces pratiques par trop contraignantes, en sachant qu'il en va du développement de notre région ?
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Monsieur le député. Alors, vous faites état d'un article de presse qui mentionne, semble-t-il, un arrêt de construction de maisons familiales. C'est une compétence communale, bien évidemment, tout ce qui est aménagement local. Mais sachez deux choses, Monsieur le député. La première, il y a dans le droit jurassien un droit d'emption. Donc, s'il existe dans la commune de Delémont des terrains à bâtir dans zones constructibles qui appartiennent à des privés, la commune peut exercer le droit d'emption pour rendre ces terrains disponibles à d'autres personnes qui souhaiteraient y construire. La deuxième chose, Monsieur le député, c'est que Delémont fait partie des communes dans lesquelles il serait envisageable d'étendre la zone à bâtir, conformément au droit supérieur, la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, et ceci pour deux raisons. La première, l'évolution démographique qui est favorable au niveau de Delémont, et la deuxième, l'évolution du nombre de places de travail. Donc, aux yeux du gouvernement, nous ne voyons pas d'obstacle au développement de la ville de Delémont, que ce soit au niveau de l'habitat individuel ou de l'habitat collectif, tant que cela reste dans les critères définis par le droit supérieur, par la loi fédérale, qui tend à, bien évidemment, densifier l'habitat dans les zones bâties. Voilà, Monsieur le député, les informations que nous pouvons vous donner.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Philippe Rottet est partiellement satisfait. Pour la 13e question orale, je passe la parole à Madame la députée Magali Voya.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, 22 mars, un véhicule termine sur les voies CFF à Grand-Gourd. Une collision avec le train étant tout juste évitée, mais avec un blessé à déplorer. 12 avril, un automobiliste se retrouve coincé entre les barrières du passage à niveau. La collision avec le train n'a pu être évitée, mais heureusement sans blessés. Ces deux événements sont questionnants quant à un éventuel souci sécuritaire dans cette zone. Notamment, comment est-il possible de se retrouver bloqué entre les barrières du passage à niveau ? Est-ce lié à un malheureux concours de circonstances où le gouvernement entend-il prendre des mesures pour améliorer la sécurité pour les usagers des trains et de la route dans ce secteur ?
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Madame la députée, concernant les deux accidents dont vous faites mention, il n'est pas possible de s'exprimer là-dessus puisqu'une enquête est en cours et les conclusions détermineront s'il y a finalement quelque chose à modifier pour améliorer la sécurité. Par contre, sachez qu'au niveau suisse, le temps de latence entre la fermeture des barrières et l'arrivée du train de plus de 1 minute, et ceci justement pour garantir la sécurité en cas d'incident ou d'accident, et ce qui permet soit aux passagers du véhicule qui serait coincé de s'échapper et de fuir avant l'arrivée du train, ou alors de forcer le passage en cassant les barrières qui sont prévues pour ça. Elles sont prévues pour être cassées par un véhicule qui serait coincé, et c'est ce qu'on apprend normalement au permis de conduire. Quand on est coincé dans un passage à niveau, on met la marche arrière ou la première et on avance et on casse les barrières et on se sort du piège tendu. Donc ça, c'est les rappels que nous pouvons donner de manière très générale. Mais je répète, nous ne connaissons pas les circonstances des deux accidents, donc il est difficile de s'exprimer là-dessus. Un autre rappel sécuritaire, c'est que dès que les feux rouges clignotants s'allument, il est interdit de franchir les rails. Donc ça, c'est des rappels que nous pouvons donner déjà à titre sécuritaire. Et pour ce qui est des accidents, en fonction des conclusions de l'enquête, bien évidemment, que des adaptations seront apportées, soit par l'autorité cantonale, soit l'autorité fédérale avec l'Office fédéral des transports qui est également très vigilante au niveau de la sécurité ferroviaire et routière.
Merci, Monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Magali Voya est satisfaite. Nous passons à la question orale numéro 14. Et pour ce faire, je passe la parole à Monsieur le député Patrick Cerf.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. La réduction de l'horaire de travail, ou RHT, constitue un régulateur conjoncturel précieux, tant pour les entreprises que pour leurs employés. Bien que perfectible, cet outil maintient le haut niveau de compétence de notre industrie. Surtout, la RHT permet d'éviter des drames en matière d'emploi, on l'a vu pendant le Covid. Hélas, les crises s'enchaînent. Pire, elles se superposent. Entre la conjoncture économique déjà morose et les gesticulations d'un président américain hors de contrôle, l'industrie jurassienne en bave. Sans une prolongation de la RHT de 18 à 24 mois, il faudra craindre pour l'emploi. Aux dernières nouvelles, 115 entreprises jurassiennes sont autorisées à introduire la RHT, principalement dans l'horlogerie. Le gouvernement peut-il nous assurer que tout soit entrepris au niveau cantonal pour faire pression sur le Conseil fédéral afin que soit prolongée la durée légale de RHT ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Stéphane Teria.
Oui, voilà, monsieur le président, mesdames, messieurs, chers collègues. En préambule, la réduction de l'horaire de travail est une mesure d'assurance chômage régie par une loi fédérale sous la responsabilité du secrétariat à l'économie. En temps normal, l'indemnisation en cas de RHT est possible pour 12 mois durant un délai cadre de 2 ans. Compte tenu des difficultés conjoncturelles rencontrées par les entreprises industrielles, telles que vous les mentionnez, le Conseil fédéral a décidé en juin 2024 de prolonger de 12 à 18 mois l'indemnisation en cas de RHT, soit durant la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Dans la situation actuelle, sans nouvelle prolongation du Conseil fédéral, le nombre de mois d'indemnisation possible durant le délai cadre reviendrait donc à 12 mois à partir du 1er août 2025. C'est pourquoi le gouvernement soutient les démarches menées par les organisations patronales pour prolonger le maintien à 18 mois jusqu'à la fin de l'année 2025. Le service de l'économie et de l'emploi suit de très près l'évolution de la situation en collaboration avec les autres cantons et le SECO. Ce dernier prend lui aussi la situation très au sérieux et entreprend tout son possible pour ne pas mettre les entreprises en difficulté. Mais au final, il revient au Conseil fédéral de décider une prolongation du droit de la RHT à 18 mois au-delà du 31 juillet 2025. En ce qui concerne une éventuelle prolongation de la RHT à 24 mois, elle est très peu probable dans l'immédiat car elle exige une modification de l'article 35 de la loi sur l'assurance chômage. Vu la durée de traitement d'un dossier relatif au niveau des chambres fédérales, une prolongation à 24 mois ne déploierait ses effets qu'au mieux dans plusieurs mois. Donc vous l'aurez compris, monsieur le député, le gouvernement suit de très près cette situation qui est importante pour le canton du Jura. Je tiens à rappeler que le canton est un grand pourvoyeur de RHT à l'heure actuelle et il est évidemment indispensable que celle-ci soit prolongée de 6 mois supplémentaires.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Patrick Cerf est satisfait. Nous passons à la 15e et dernière... Hop là, je suis désolé, j'ai perdu le son. Nous passons à la 15e et dernière question orale de la matinée. Et pour ce faire, je donne la parole à monsieur le député Rémi Meury.
Monsieur le président, mesdames et messieurs, une information récente de la RTS parle de l'arrivée à l'école des enfants conçus pendant le Covid-19. Le Val-de-Rue est cité en exemple avec l'arrivée probable de 27% d'élèves supplémentaires à la prochaine rentrée. Parmi les mesures pour les accueillir, le passage à des effectifs de 26 élèves par classe est grandement envisagé. Nous ignorons à quel point l'instinct de reproduction s'est développé durant le Covid-19 dans le Jura et nous ne tenons pas forcément à le savoir. Par contre, si une arrivée massive d'enfants devait être constatée, le gouvernement, obsédé par la recherche d'économies tous azimuts, peut-il nous garantir qu'il n'en fera pas dans ce domaine et qu'il assurera un accueil optimal des enfants nouvellement scolarisés, quel que soit leur nombre, notamment en évitant que des classes atteignent des effectifs ingérables comme à Val-de-Rue ?
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Oui, merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Un gouvernement obsédé par le fait d'être orienté solution pour boucler nos budgets, monsieur le député, notamment, bien sûr, pour celui qui nous concerne maintenant, en 2026. Et petit rappel, puisque vous évoquez cette phrase, pourquoi est-il difficile de boucler nos budgets ? Eh bien, car les charges ne cessent d'augmenter, je crois, pour des sujets qui vous tiennent à cœur également, faire attention aux personnes qui ont besoin du social, de tout l'accompagnement de notre jeunesse, extrêmement important, et notamment aussi de nos aînés, en précisant peut-être un chiffre, que le nombre de personnes dans le Jura de plus de 80 ans va doubler d'ici 2040. Donc tout ça, évidemment, ça coûte, et nous faisons en sorte de boucler ces budgets. Mais là n'était pas la question, mais comme c'était précisé, je me permets de répondre à ce sujet. Sur le fond de votre question, donc pour les prochaines années, on peut dire que nous sommes au niveau des effectifs qui entrent en 1P dans une stabilité, voire légère baisse. Malgré la période Covid, on n'a pas vu de changement réellement par rapport à cela. Vous donnez quelques chiffres au niveau des rentrées. La rentrée d'août 23, par exemple, dans les perspectives, était 737. Août 24, 783. Août 25, 727. Estimation pour août 26, moins de 700. Donc on voit même une légère diminution. Donc, par contre, la fin de votre question était sur les ressources. Donc, si il devait y avoir, malgré ces perspectives, une augmentation, eh bien, les ressources allouées sont automatiquement adaptées par le système d'enveloppe, donc que le Parlement a judicieusement validé dans le dossier que nous avons fait passer, autonomisation des directions. Donc, concrètement, ça signifie que si le nombre d'élèves augmente, les ressources sont automatiquement adaptées. Quant aux effectifs dans les classes, l'ordonnance scolaire est claire. Maximum 25 élèves par classe. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Quelle est votre appréciation, monsieur le député ?
Satisfait.
Monsieur le député Rémi Meury est satisfait.